Rubrique dans le monde. Tunisie, Algérie, Égypte, Albanie, les populations mobilisées. De jour en jour, la situation évolue en Tunisie, mettant en évidence les antagonismes plus ou moins clairement formulés entre les différentes forces en présence. Et depuis 3 semaines, pas seulement en Tunisie, mais au-delà, l'Algérie, où une manifestation a contraint le gouvernement à mobiliser massivement ses forces de répression, jusqu'à l'Albanie, et maintenant en Égypte. On peut doctement discuter pour savoir si cela traduit une contagion ou s'il s'agit de simples coïncidences. Mais on doit faire le constat qu'au-delà des particularités de chacun de ces pays, il y a partout la pauvreté d'une majorité de la population, lourdement aggravée par la crise. Partout des dictatures qui bâillonnent les peuples, partout un ras-le-bol général. Si cela n'est pas la contagion, ça y ressemble diablement. On ne peut pas prévoir ni son élargissement, ni l'évolution de ces mouvements qui s'alimentent mutuellement. D'autant qu'en face du développement des mouvements de masse et de leur radicalisation, il y a partout des adversaires aguerris, expérimentés, prêts à utiliser tous les moyens des forces de répression, et prêts aussi à récupérer les mots d'une révolte ou d'une révolution pour les vider totalement de leur contenu. Tunisie après la fuite du dictateur. En Tunisie, par exemple, le gouvernement provisoire, encore sous la houlette de Mohamed Ghannouchi, pour combien de temps encore, déjà premier ministre de Ben Ali, est loin de satisfaire la volonté de changement exprimée par les manifestants et la population. Composé en majorité de ministres liés à l'ancien régime et membres du RCD, l'omniprésent parti de Ben Ali, ce gouvernement dit de transition, comprend également des responsables de l'ex-opposition officielle, constituée par le PSD et l'Etadjid, l'ancien parti communiste tunisien. Des appels à la grève ont été lancés par la centrale syndicale UGTT, notamment dans les établissements scolaires. Un mot d'ordre remisé au bout de 2 jours par ceux-là même qui l'avaient lancé, sans que l'on sache, vu d'ici, ce que feront les enseignants. Les manifestations n'ont pas cessé. Des sit-ins se sont organisés la nuit, malgré le couvre-feu, dans le quartier de la Casbah, siège du pouvoir politique à Tunis. Venus des villes pauvres du centre-ouest, regroupant jeunes sans travail, ouvriers, mères de famille, militants syndicaux de base, les manifestants expriment leur méfiance vis-à-vis du gouvernement de Ghannouchi. Certains slogans ne se limitant pas au « RCD dégage » des premiers jours, mais évoquent sa dissolution, ce qui implicitement semble remettre en cause la haute administration puisque tous ses membres faisaient partie du RCD. Les annonces de remaniement ministériel ni même celle du versement d'une aide exceptionnelle de 260 millions d'euros pour les régions rurales les plus pauvres n'ont pas fait rentrer chez eux les manifestants. Citation: la Casbah, c'est la Bastille de la Tunisie et on va la démonter, comme les sans-culottes français ont fait tomber la Bastille en 1789, affirmait l'un d'eux devant le siège du gouvernement. À son tour, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Amar, a pris la parole au milieu de la foule pour appeler au calme, profitant de la popularité dont jouit, pour l'instant, l'armée tunisienne, perçue par beaucoup comme une force bienveillante envers la population, surtout comparée à la police de Ben Ali, responsable des morts et des brutalités de ces dernières semaines, y compris après la fuite du dictateur. Tous, ministres comme état-major, craignent une vacance du pouvoir, le gouvernement apparaissant d'entrée de jeu discrédité. Le général Amar affirmait au nom de l'armée sa fidélité à la constitution du pays, qui est, il faut le noter, celle imposée par Ben Ali, et son engagement à ne pas sortir de ce cadre. Mais la population tunisienne doit rester méfiante vis-à-vis de tous ces gens-là et se donner les moyens de garder en main les leviers d'un changement politique payé de son sang. Viviane Lafont.